Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine et de la revue Le Verbe, par ailleurs animateur de l'émission On n'est pas du monde à Radio-VM et Radio Galilée. Il nous parle de la grande réinitialisation, c'est-à-dire de la mise à compteur, de la mise des compteurs à zéro au sortir de la crise sanitaire. Une utopie dans laquelle les chrétiens ont une longueur d'avance. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et évoque le désastre économique au Texas. Le froid historique des derniers jours s'explique par les coupures généralisées de courant dans un secteur non réglementé et indépendant des États voisins. Autrement, ceci aurait pu venir en aide aux millions d'habitants transis de froid dont pas mal sont décédés. Bonjour Louis.
Jean-Philippe.
Alors écoutez, oui, ben ça il fait froid dans le sud.
Ben oui, ben c'est l'équivalent un peu de notre crise du verglas en 98, mais cette fois-ci qui est transposée plus au sud, au Texas. Donc j'avais pensé de regarder ça d'un peu plus près et voir pourquoi quand même on n'est pas dans un pays du tiers-monde là. Et donc c'est quand même important. Mais fidèle à notre habitude, j'ai retenu trois nouvelles à saveur économique de la semaine dernière. Alors allons-y. On a pu quantifier les pertes d'emplois dues à la pandémie au Québec. Donc, les chiffres sont sortis pour l'an dernier. C'est l'Institut de la statistique du Québec qui nous a annoncé ça. Donc, une perte nette d'environ 210 000 emplois.
Perte nette voulant dire quoi, déjà?
Qui ne sont pas sujettes à fluctuations au cours. Donc, on regarde à la fin de l'année.
Puis
définitive, pour ainsi dire. Oui. Donc, mais c'est intéressant de voir dans quel secteur ça se retrouve tout ça. Donc, le secteur le plus touché ou les secteurs les plus touchés, en gros, c'est le tourisme, l'hébergement et la restauration qui affichent une perte de plus de 80 000 emplois. Viennent ensuite les secteurs du commerce. C'est clair que quand les centres d'achat sont fermés, vous ne pouvez pas. Donc, perte nette de près de 60 000 emplois là. Puis, dans les arts, spectacles, loisirs, une perte nette de près de 20 000 emplois pour l'année. Donc, puis l'Institut a d'ailleurs confirmé qu'il y a des catégories de travailleurs qui sont plus touchées que d'autres, entre autres les femmes et les jeunes de 15 à 24 ans.
C'est curieux parce que quand ces trucs-là arrivent, en général, c'est les hommes qui payent davantage le prix, mais là, c'est les femmes et les jeunes.
Les femmes, c'est un peu surprenant parce que, on le sait, habituellement, elles occupent une plus grande proportion des emplois dans la santé et l'éducation.
Ça n'a pas été touché.
Exactement, ce n'est pas des secteurs qui sont touchés, sont préservés par les pertes d'emplois. Les enseignants, ils font ça sur Zoom, mais en principe, il y a le salaire qui rentre. Mais, très souvent, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui occupent des emplois dans des secteurs comme le commerce de détail, l'hébergement, la restauration, fait que c'est là où ils sont touchés. Sinon, le Québec se compare bien. On est un peu dans le milieu parce que le Canada, lui, affiche une perte nette de près d'un million d'emplois pour l'année. Et on le sait, les provinces les plus touchées, ce sont l'Alberta, ça va très mal là-bas. La Colombie-Britannique et Terre-Neuve et Labrador.
On reste au Québec pour la deuxième nouvelle.
J'ai relevé ça. C'est Francis Veil qui en parlait dans la presse mercredi dernier. Le gouvernement du Québec sous-estime de plus de 12 milliards de dollars sa dette.
Et c'est beaucoup.
C'est la vérificatrice générale qui revient à la charge chaque année, et ce depuis 8 ans, mais rien n'y fait. Le gouvernement du Québec continue à enfreindre une règle comptable importante puis reconnue, puis qui a des pour effet de sous-estimer notre dette collective. Donc, c'est un impact majeur. Si le gouvernement respectait la norme comptable, la dette du Québec augmenterait de plus de 12,4 milliards. Donc, c'est quand même important.
Pourquoi ils font cette petite partie de cache-cache, puisque tout le monde sait qu'il y a un trou de 12 milliards?
Oui, tout le monde, les experts, les agences de notation sont au courant de ça. Mais là, c'est le public, lui, qui ne sait pas. Et moi, je vous dirais que c'est important parce qu'au sortir de la pandémie, on va nous demander de faire preuve de solidarité. On va discuter de la dette publique puis du déficit, mais on n'aura pas les bons chiffres. Donc, ça permet, par exemple, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a deux postes importants. Mais par exemple, pensez aux subventions qui ont été payées au Centre Vidéotron à Québec, ce grand aréna qui n'est pas occupé par les Nordiques encore. Et puis, techniquement, ça va apparaître, ça, la subvention, dans 15 ans encore. Mais on le sait, ça a été payé, mais on fait comme si dit, ouais, dans 15 ans, quand ça sera tout payé, ben, on va le mettre sur les livres. Donc, c'est une passe comptable, puis c'est pas correct. Oui. Alors, troisième
pourtant,
nouvelle.
Pourtant, Éric Girard, c'est pas le monsieur.
Il
donne une bonne image, en tout cas. Oui, moi, je ne pense rien de mauvais de lui.
Oui, pourquoi il fait ça? On se le demande. Donc, faut le taillonner un peu, puis lui dire, écoutez, rectifier le tir un peu. Et troisième nouvelle, ben, la secrétaire étatsunienne du Trésor, Mme Janet Yellen, a dit hier tout le mal qu'elle pensait du Bitcoin. C'est curieux, il semble y avoir une attaque concertée. Mme Lagarde, la semaine dernière, de la BCE, a dit aussi que c'était pas une bonne idée. C'est extrêmement inefficace pour mener des transactions.
Et surtout, il n'y a pas Elon Musk aussi de Tesla qui a lancé un peu la marque avec son petit gazouillis?
Oui, lui il a acheté. Bon, après ça, il a dit que, ouais, c'est peut-être un peu élevé, mais surtout, c'est la quantité d'énergie qui est consommée pour ce qu'on appelle miner des transactions. Et là, il faut y donner raison. Je veux dire, ça consomme beaucoup d'électricité. Il y a des endroits sur la planète comme, bon, par exemple, le Québec, la Norvège qui ne brûle pas, qui ont de l'hydroélectricité. Je crois qu'en Argentine aussi, ça peut être intéressant, mais ailleurs, de par le monde, on brûle...
Pardonnez-moi, pour le minage, c'est pour la fabrication, pour frapper monnaie, si j'ose dire?
Non, ben, pour ainsi dire, c'est bon, il faut utiliser, c'est des algorithmes qui sont très longs, et donc vous faites...
Ça
chauffe l'ordinateur, puis avant de pouvoir mettre la main sur votre Bitcoin, ben, l'ordinateur, il doit chauffer 24 heures, 48 heures, et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça miner. Mais bon, on peut râler contre le Bitcoin, mais comme le disait hier Stéphane Lauer, qui était éditorialiste au Monde, il y a une grande demande du Bitcoin parce que la confiance dans les monnaies est pas très bonne ces temps-ci. Les banques centrales impriment la monnaie, je dirais, comme des dingues pour stabiliser le système financier. Les banques centrales, ben, ils vont finir par fragiliser la confiance dans la solidité des monnaies. Vous sentez peut-être, on parle un peu d'inflation, là, le retour de l'inflation. On n'est pas rendu à l'hyperinflation encore. On parle aussi peut-être d'un crack à la bourse et tout ça. Donc,
il y a aussi les taux obligataires qui remontent.
Qui montent un peu. Bon, la semaine dernière, Elon Musk, le patron de Tesla, avait annoncé que sa firme en avait acheté pour 1,5 milliard. Puis là, après ça, il y a eu comme quelques remords en se disant, ben on a peut-être payé trop cher. Peut-être que le prix, après de, je pense que c'était 60 000 $ US, le Bitcoin, c'est un peu... Là, ça commence à redescendre.
C'est incroyable, oui. Un seul gazouillis, quelques mots, et puis il y a des milliards de dollars qui s'envolent.
Ça
devient absolument surréaliste.
Oui, c'est ce qu'on appelle un influenceur, pour ainsi dire.
Et comment, oui, c'est un petit mot, ça.
Acheter, puis tout ça.
Ouais, ouais.
Alors, voilà. Alors,
on arrive au sujet de la semaine, Louis Bouchard. On arrive au Texas.
Donc, une vague de froid étonnante pour cette région, avec des bordées de neige. Et puis, le système électrique du Texas, il n'a pas été en mesure, à partir de mercredi dernier, d'assurer un service continu. Et ce qu'il y a eu, ben, c'est des coupures de courant. Donc, sur les 30 millions d'habitants, c'est le deuxième État plus populeux, soit dit en passant, après la Californie, qui en a à peu près 40 millions. Ben là, sur 30 millions d'habitants, il y en avait 14 millions qui ont subi, au cours de la dernière semaine, des pannes de courant. C'est important, là.
Et comme et c'est la moitié de la population.
Oui, ben, et comme un malheur n'arrive jamais seul, ben là, imaginez-vous, les tuyaux d'amener d'eau potable ont gelé et la pression a baissé. Fait que ça faisait en sorte qu'il n'y avait plus personne qui avait de l'eau potable à un moment donné. Donc, les usines de traitement des eaux étaient paralysées. Il y avait 10 millions de Texans qui avaient des problèmes d'approvisionnement d'eau. Et et ils se faisaient dire de bouillir leur eau pour la rendre potable.
Ou de prendre de la neige.
Oui, et prendre de la neige aussi dans les toilettes. On leur recommandait ça, de faire ça aussi. Donc, et dans l'ensemble du Texas, la tempête a provoqué au moins le décès d'une trentaine de personnes. Là. Oui. Donc, on parle pas d'un pays du tiers-monde. Là. On se demande,
c'est pas une petite pluie non plus.
Ben non,
alors, comment vous expliquez ça, vous, les Bouchard?
Ben voilà, c'est ça. Je vais vous le dire un peu. C'est la faute des économistes. Faut le dire aussi. Mais bon, continuons un peu. On va vous expliquer plus en détail. Le gestionnaire du réseau électrique du Texas s'appelle le ERCOT. En anglais, c'est l'abréviation, ça, de Electric Reliability Council of Texas, qui est très mal nommé parce que reliability, ça veut dire
fiabilité, oui.
Solidité, ben il est pas solide le réseau. Il est pas raccordé au réseau national. Donc ça veut dire que
quand ça marche mal au Texas, les voisins ne peuvent pas venir en aide ou renvoyer de l'électricité d'urgence.
Exactement. Parce que s'il avait fait ça, s'il y avait de l'interconnexion, il serait sujet au regard du gouvernement fédéral. Et ça, ils veulent pas ça. Au Texas, on le sait, c'est un peu une société distincte. Et ils ont décidé
c'est comme l'Alberta, un petit peu.
Exactement, l'Alberta. Et donc, ils ont décidé qu'ils feraient ça entre eux. Bon, ça a eu d'autres conséquences. Par exemple, il y a une morgue qui a même réclamé un camion frigorifique pour entreposer les corps parce qu'il n'y avait pas d'électricité. On s'imagine, là, ben, on le sait, ceux qui ont vécu le verglas de 98 sans électricité, une grande ville comme Montréal, là, c'était pas drôle là, à ce moment-là.
Bon, surtout à l'ouest.
Évidemment, au même moment, le sénateur, il y a deux sénateurs, mais un d'entre eux, Ted Cruz, en avait profité pour aller au soleil, plus exactement, au Ritz-Carlton de Cancun. Il a dû rentrer en catastrophe en disant, et ça c'est assez cheap pour un politicien, qui était parti pour faire plaisir à ses filles. Donc, mettre la faute sur ses filles pour qu'ils partent, je pense qu'on est rendu là un politicien qui n'est pas capable de dire, je voulais, moi aussi, il aurait pu dire, je veux prendre un peu de soleil après toute la pandémie.
Dire non à ses filles, ça peut encore se dire aujourd'hui.
Exactement.
Bon, c'est un peu difficile, mais bon.
Je propose de revenir sur la façon dont tout ça, un État comme ça, puisse perdre son alimentation électrique. Je vous l'ai dit. En gros, c'est la faute des économistes, surtout ceux qui ont une foi idéologique libertaire et darwinienne dans le libre marché.
Ça veut dire que les meilleurs, les plus forts vont l'emporter, c'est ça ce que vous dites?
Exactement. Donc, premier constat, il fait très chaud au Texas. Ouais. Ça a été piqué aux Espagnols ou aux Mexicains en 1848. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas grand monde, là, parce que sans climatisation, c'est pas un endroit, c'est trop chaud l'été, et il se passe pas grand-chose, mais après la Première Guerre mondiale, on découvre du pétrole, fait que là, ça attire des gens, puis là, il faut y aller, et là, on va citer Lénine, on cite pas souvent Lénine.
Ah bon? Les Texans citent Lénine, ou c'est vous qui le citez?
Non, c'est moi qui va citer, qui, soit dit en passant, est un meilleur économiste que certains gouverneurs de cet État. Lui, il disait que le communiste russe, c'est le pouvoir des soviets à la baïonnette, plus l'électrification.
Les soviets, c'est l'organe à la fois législatif et exécutif des délégués élus à plusieurs niveaux dans la Russie soviétique. Ça allait du niveau local au fédéral.
Puis on se souvient, dans les années 20 et 30, ça a été poursuivi par Staline par la suite. La rivière Don, on construisait de gros ouvrages hydroélectriques pour montrer que le système soviétique était quand même capable d'offrir l'électrification.
Attendez, Louis, la rivière Don, c'est en Ontario. Vous parlez de la rivière Don.
Oui,
le Don paisible, là, oui.
Voilà, exactement. Donc, aussi que dans les années 30, Franklin Delano Roosevelt va suivre la même recette sous le New Deal. Il va se lancer dans la construction de grands ouvrages hydroélectriques pour faire travailler les gens aussi. Donc, la Tennessee Valley Authority, mais aussi dans l'ouest, sur la rivière Columbia. Pensez, un peu avant, on avait inauguré le barrage Hoover, des grands ouvrages qui avaient... Au Texas, on a fait la même chose. Donc, il y a un grand barrage. Le barrage Mansfield, qui a permis l'électrification rurale là-bas. Et près de Austin, la ville, c'est un projet municipal, a construit le Tom Miller Dam, qui permettait d'apporter du courant à la capitale du Texas. Mais, comme disait la chanson de Bob Dylan, « The times, they are a-changing », à partir des années 50, l'État décolle. Faut dire, ça attire de plus en plus de gens. La climatisation permet ça aussi, parce qu'il fait très chaud. Durant l'été, là, c'est insupportable. Je me souviens, un de mes frères est allé à un congrès là-bas au mois de septembre, et il a dit, on sortait le soir, 30 secondes à peine, puis c'était insupportable, fallait rentrer à la clim là-bas. Donc, mais dans les années 50, il y a plein de gens, ça attire le pétrole aussi, ça attire les gens. Donc, souvenez-vous, Papa Bush a quitté son Connecticut natal pour aller faire fortune dans le pétrole là-bas, avant de se lancer dans sa carrière politique.
Mais il nous reste 5 minutes, Louis Bouchard. Mais là, on est encore dans une sorte, dans cet esprit texan à part, on peut tout faire, on n'a pas besoin du fédéral, etc.
We can do it, puis voilà. Okay. Mais il y a un petit problème, c'est que, bon, les sociétés électriques, c'est encore des sociétés d'utilité publique, du socialisme, c'est les villes qui sont propriétaires de ça, ou l'État. Et à partir des années 90-2000, il y a des économistes qui se disent, ah, c'est un secteur qui n'est pas dynamique, on a trouvé la recette, on va déréglementer tout ce secteur-là, puis vous allez voir, les prix vont baisser. Et donc, et c'est un secteur qui était parfait pour faire ce genre d'expérience, parce que un kilowatt produit par une entreprise ou une autre, il se distingue pas. Donc, c'est une série d'électrons. Donc, comme je vous l'ai dit, le Texas se considère un peu comme une société distincte, qui ont mis sur pied un réseau interne qui serait pas sujet au regard du gouvernement fédéral, le fameux ERCOT, qui est une, soit dit en passant...
C'est l'Hydro-Québec du Texas, ça, quoi.
Oui, mais juste le réseau est un organisme sans but lucratif. Donc, chacun des producteurs peut apporter, et pour une somme minime, ils utilisent le réseau. Donc, imaginez-vous, les économistes trouvent ça génial. Il y a la demande d'un bord, il y a l'offre de l'autre, puis il y a le gestionnaire neutre de l'État, puis il ne fait pas grand-chose. Il y a juste un petit
problème. Si je vous comprends bien, Louis Bouchard, moi, comme particulier au Texas, je vais à l'ERCOT, là, l'Hydro-Québec texan, si vous voulez, et je dis, moi, j'ai besoin de tant de kilowatts.
Non, vous allez vous choisissez une des 70 compagnies qui offrent ce service-là. Vous n'êtes jamais en contact avec ERCOT.
Il y a un intermédiaire, oui, d'accord.
Il y a un intermédiaire neutre qui ne fait pas de profit, soit dit en passant, il vend ça au coût. Bon, il y a un petit problème derrière ça, c'est que la demande électrique est inélastique. Ça, c'est c'est une terminologie pour un économiste qui dit que ça réagit peu aux variations de prix, parce qu'on en a besoin de manière continue tout le temps. Donc, mais lui, le prix, il peut réagir au changement de température. Il y a un autre problème, c'est que l'électricité, on ne peut pas encore l'entreposer ou la stocker.
Et même donc, à l'époque?
Encore aujourd'hui, on essaie de les mettre dans des batteries, mais c'est pas encore au point. Donc, il faut vendre ce que vous produisez maintenant, il faut le vendre à peu près au même moment. Pensez à un pêcheur qui ramène sa pêche, puis ce qu'il peut pas vendre le même jour, il peut le congeler, puis essayer de le revendre plus tard, mais pas ici. Donc, revenons à notre petite histoire au début des années 2000. Oui, le gouverneur républicain Rick Perry, qui va être au pouvoir de l'an 2000 à 2015, pendant 15 ans, puis après ça, il va devenir secrétaire de l'énergie sous Donald Trump, décide de se lancer à fond dans la déréglementation du secteur. Vous vous souvenez d'Enron, qui a fait faillite en 2003? Il était un des grands joueurs là-bas. On avait dit à l'époque, c'est terrible, mais c'est le jeu du capitalisme. On va pas... Donc, c'est un esprit vraiment, je dirais, révolutionnaire. On revivifiait, pour ainsi dire, le secteur énergétique. Il y avait même des firmes. Il y en a une qui s'appelle Gridy. Grid, en anglais, c'est un réseau. Il vous offrait ses services pour 9,99 par mois, plus une facture qui vous offrait le meilleur prix de gros à la fin du mois. C'était très bien, sauf quand les températures se mettent à monter. Et là, il y a des gens qui, pendant 3-4 jours, ont laissé quelques lumières allumées et le frigo marchait, s'ils avaient un peu d'électricité, puis ils se retrouvent avec des factures de 3 000 $ US par jour. Donc, parce que les prix spot, pour ainsi dire, se sont mis à exploser. Donc, évidemment, un système comme ça, c'était la concurrence exacerbée, coupe-gorge, ça veut dire que les entreprises investissent le moins possible dans l'entretien. Manque de chance, depuis le mois de mars dernier, à cause de la pandémie, on ne faisait plus d'entretien, ce qui rendait encore plus fragile le système électrique. Donc, et l'autre chose, c'est qu'on vient d'apprendre ça, c'est que le client, lui, il veut que l'électricité soit là en tout temps. Donc, tout ça pour dire que Rick Perry, un des responsables de l'élaboration de ce système-là, il est encore vivant. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Que pensez-vous de tout ça? Lui a répondu, vous savez, les Texans, ils sont prêts à souffrir pour éviter d'avoir à vivre avec du socialisme.
Et même à mourir.
Et même à mourir, voilà. Ça me fait penser un peu à l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, qui, lui, comprenait pas que le crack de 2008 soit survenu, parce que, selon lui, les banques d'affaires ne feraient jamais des folies financières, parce que leur réputation était trop précieuse. On le sait, une fois qu'ils ont goûté aux folies financières, Bear Stearns a fait faillite, Lehman Brothers a fait faillite, parce que l'appât du gain est plus fort que la réputation de leur banque.
Et Louis Bouchard, j'ai l'impression que Hydro-Québec fait moins parler de lui, mais c'est plus fiable.
En terminant, je dirais, pensée pour Hydro-Québec. C'est une entreprise importante qui ne fait pas toujours parler d'elle, qui fait des bons coups, mais règle générale, c'est assez plate. Là, ils ont une nouvelle patronne ces temps-ci, Sophie Brochu, qui vient de chez chez Gaz Métro ou d'énergie. Mais ayez une petite pensée, votre frigo qui ronronne comme ça en bouffant quelques électrons, bien plates, mais qui viennent régulièrement. On n'en parle pas, mais c'est quand on n'en a pas qu'on réalise son importance. Voilà.
Merci pour cette leçon de philosophie, Louis Bouchard. Merci beaucoup. Vous nous parlez donc de ce désastre économique au Texas. À dans une semaine, comme d'habitude?
Comme toujours.
Merci beaucoup, Louis. À venir sur les ondes de Radio-VM, la grande réinitialisation. On vous revient après la pause.